Et on ouvre ensemble ce soir sur Europe 1 le débat des grandes voix avec bien sûr d'abord ces nouvelles annonces du Premier ministre. On va en parler ce soir avec vous Michel Cotta, avec vous Charles Villeneuve et avec Eric Scholl, directeur de la rédaction de l'Express. Bonsoir à tous les trois.
Bonsoir.
Et merci d'être avec nous ce soir. Alors on a entendu cette conférence de presse du Premier ministre. Le ton était grave car l'heure est grave. Jean Castex est venu annoncer encore de nouvelles restrictions sanitaires.
Je vous le dis très clairement. Les semaines qui viennent seront dures. Nos services hospitaliers vont être mis à rude épreuve et le nombre de morts va continuer d'augmenter. Les nouveaux cas d'aujourd'hui sont les malades hospitalisés de demain et malheureusement parfois les morts d'après-demain. Le mois de novembre sera éprouvant, nous le savons déjà. Chaque jour, le nombre de décès augmente.
46 millions de Français seront donc sous couvre-feu à partir de demain soir minuit. Couvre-feu entre 21h et 6h du matin. 38 départements désormais en tout et un territoire d'outre-mer. Et si ça ne suffit pas, la menace de mesures encore plus dures, c'est ce que a dit tout à l'heure le Premier ministre. Alors chaque semaine, les grandes voix, chaque semaine, la pression monte d'un cran. Chaque semaine, le ministre de la Santé ou le Premier ministre, ou parfois les deux ensemble, viennent nous annoncer de nouvelles mesures restrictives. Et les Français ont le sentiment que ça ne s'arrête jamais. Est-ce que c'est la bonne stratégie, la bonne façon de communiquer, parce que là, c'est quand même extrêmement anxiogène.
Oui, mais je ne vois pas d'autres moyens de communiquer. Si on pouvait évoquer même une descente de la courbe, si on pouvait avoir un avenir lointain, mais on voit que là, il n'y a pas d'autre système que de choisir un demi-confinement, un confinement nocturne. Comme disait notre prédécesseur, comme disait notre médecin prédécesseur, un confinement nocturne. Et il faut bien, à un moment donné, remettre un peu de terreur dans tout ça, en quelque sorte, pour que chacun pense que ça n'est pas fini. Alors, je dois dire qu'il y a certaines personnes, dont je fais partie d'ailleurs, pour qui l'angoisse est nettement dominante, mais il y en a d'autres à qui, effectivement, il faut rappeler que rien n'est gagné et qu'il faudra surtout plusieurs jours pour qu'on se rende compte, plusieurs semaines même, pour qu'on se rende compte de l'utilité de ces mesures. Parce que c'est aussi un obstacle, dire on prend ces mesures et puis on ne voit pas du tout le nombre des morts et immédiatement décroître. C'est vrai que ça risque de déstabiliser les gens. Et donc, il fallait leur dire que c'était un gros paquebot et que le paquebot allait lentement.
Non, mais, remettre un peu de terreur, Charles Villeneuve.
Il y a une course contre la montre de l'exécutif et contre le virus. Et il n'y a aucune raison que ça s'arrête. Et d'ailleurs, l'avertissement, en quelque sorte, en forme de conclusion de ce que vous venez de diffuser du Premier ministre, vous annonce que la circulation du virus a touché la majorité du territoire, et notamment, et c'est ça qui est aussi nouveau, les zones rurales.
C'est ça, oui.
Et presque donc la totalité, et il y a 91 départements en réalité, presque la totalité qui sont touchés, alors à deux degrés divers. Mais progressivement, on voit bien qu'on serre la vis. Il n'y a pas de durcissement du couvre-feu, mais une extension territoriale des mesures. Et le Premier ministre a préparé donc l'opinion publique à un durcissement qui est inéluctable compte tenu de ce qu'on voit dans toute l'Europe. Puisque même l'Allemagne aujourd'hui a plus que doublé le nombre des contaminés. Et ça, c'est très nouveau, puisqu'on cite toujours en exemple le modèle allemand. Donc le modèle allemand est en train de finalement être à l'identique du modèle de tous les autres pays européens, même s'il reste encore, si vous voulez, minoritaire par rapport au nombre de contaminés, 11 000 aujourd'hui, ce qui est quand même important par rapport au système justement mis en application en Allemagne.
Alors qu'est-ce qu'il faut faire plutôt que de courir après la vague? Ça serait bien qu'on arrive à la précéder. Est-ce que la solution, ça ne serait pas d'instaurer tout de suite le fameux couvre-feu total comme on a connu lors de la première vague?
Et en fait, je vous rappelle que Jean Castex, au mois de juillet, avait déjà envisagé tous ces scénarios. Au moment du déconfinement, il y avait 4 scénarios possibles. Le principal objectif, c'était la maîtrise de la circulation du virus. Et donc, il y avait un premier scénario où on arrivait, et un deuxième scénario où on arrivait à peu près à maîtriser le virus, sa circulation, et ensuite le moment où on perd ce contrôle avec des différentes mesures à la fois locales et puis de plus en plus généralisées. Et le dernier scénario, le quatrième, c'est effectivement un confinement généralisé. Ça, c'est la dernière étape que veut à tout prix éviter l'exécutif, et on sait pourquoi. Pour des raisons économiques, pour des raisons sociales, parce que personne n'a envie de ça. Mais on s'aperçoit que tout ce qui a été fait jusqu'à présent n'a pas fonctionné, parce qu'il y avait un grand triptyque qui avait été mis en place, le tracé, isolé, testé, isolé, qui n'a pas fonctionné. On voit, c'est le tracé qui n'a pas fonctionné. On a testé, on a beaucoup testé, peut-être trop, peut-être et surtout très mal. On n'a pas réussi à tracer, et là, à partir du moment où vous perdez cette circulation, le contrôle de cette circulation de virus, ça devient quasiment impossible de tracer. Et c'est ça aujourd'hui qu'il faut essayer de retrouver. Alors, c'est vrai, comme l'a dit Michel Cotta, on vit aujourd'hui 15 jours à l'avance, c'est-à-dire qu'on a ce décalage dans le temps. On sait que les 15 prochains jours et 3 prochaines semaines vont être terribles, parce qu'en fait, en réalité, ça va être les contaminations qui ont déjà eu lieu. Et toutes les mesures qu'on prend aujourd'hui, on n'en verra pas les effets avant.
On va poursuivre ce débat, parce qu'il y a encore plein de choses à dire, effectivement, sur ce sujet. On se retrouve dans un tout petit instant, les grandes voix, tout de suite.
Europe Soir, le 18-20, Isabelle Milleux.
18h41, c'est la suite de votre débat. Des grandes voix en direct ce soir sur Europe 1, Michel Cotta, Charles Villeneuve. Et vous, Éric Scholl, vous nous disiez juste avant la pause que tout ce qui a été mise en place n'a pas fonctionné. Charles Villeneuve, vous ne comprenez pas cette stratégie du gouvernement?
Non, parce que le Premier ministre vous a dit de toute façon que ce sera encore plus dur en novembre. C'est un mois très difficile, il l'a annoncé. Oui. Bah, alors à ce moment-là, pourquoi cette riposte graduée, lente?
Il fallait
pourquoi
frapper
ne
plus
pas
fort tout de suite,
suite hein. Si vous voulez, aller dans le dur, justement. Peut-être pas par le reconfinement total, bien sûr, on comprend très bien pourquoi. Par rapport aux risques économiques que ça implique, et à la crise sociale, à la perte d'emploi, tout ce qu'on veut. Bon, et l'État a fait d'ailleurs, il faut le reconnaître, l'exécutif a fait un effort sur le plan économique considérable. Bon, c'est vrai qu'il suit, d'ailleurs demain, Bruno Le Maire sera là pour l'expliquer à 8h15, demain matin, mais moi, si vous voulez, là où je ne comprends pas, c'est que on va de toute façon aller exactement comme l'Irlande, qui a reconfiné, on ne peut pas reconfiner, mais je pense qu'il faut durcir très vite, puisque 91 départements quasiment sont touchés. Alors pourquoi on hésite et tout ça? Et peut-être même que le couvre-feu devrait être peut-être porté un peu plus tôt, au lieu d'être à 21h, porté plus tôt.
Y aller par petits pas, vous trouvez que c'est le mauvais choix aussi, Michel Cotta?
Non, moi je suis pas d'accord. Je pense qu'au contraire, je pense que le gouvernement précède un peu, tu as raison, et tu l'accuses de suivre, il précède
non,
un tout petit
pas.
Peu.
Non, je l'accuse pas, je constate.
Un tout petit peu donc, parce que là pour le moment, quand il donne les chiffres,
je suis pas juge d'instruction.
Les chiffres ne sont pas non plus, il passe son temps aussi à dire que les chiffres ne sont pas aussi catastrophiques que pour la première vague. Bon, bah, mais surtout, il faut bien dire que on dit le confinement.
Le médecin que je recevais il y a quelques instants était quand même très alarmiste. Hein.
Vous m'excuserez, mais moi j'y crois pas. On a eu un confinement. On a eu un confinement très très fort. Ça a repris. C'est-à-dire que ça ralentit le virus, effectivement. C'est très bon pour les hôpitaux, c'est très bon pour que les gens puissent être soignés. Mais ça n'arrête pas.
Parce que le déconfinement, c'est fait aussi juste avant l'été que les Français sont partis en vacances. Peut-être que si on reconfinait, il faudrait faire les choses différemment au moment du déconfinement.
Je pense que le déconfinement a eu un effet efficace. Alors, il a eu plein de mauvais effets, on les connaît tous. Mais il a eu pour efficacité, tout d'un coup, de stopper la circulation largement.
Il a freiné.
De freiner, mais très fortement.
Très fortement.
Simplement, derrière, on n'a pas su utiliser ce gain pour se dire comment fait-on après pour essayer de rester en situation. Et c'est sans doute une des différences avec de nombreux autres pays. Je pense notamment aux pays qui n'ont pas de deuxième vague, notamment les pays asiatiques, parce que là, les politiques ont été mises en place, et notamment dans ce qu'on appelle le tracé, c'est-à-dire remonter, ont bien fonctionné. Et peut-être que pendant l'été, et un peu plus que pendant l'été, on a été trop négligent sur ces mesures.
Trop laxiste, oui.
Je vous rappelle que le Premier ministre, sortant, ne voulait pas d'un déconfinement total, brutal. Il le voulait successif et beaucoup plus lent. Et parce que le rebond a été terrible, justement, une fois que tout le monde s'est lâché. Dimanche matin, je regardais All Black Nouvelle-Zélande en Nouvelle-Zélande contre l'Australie. Il y avait 45 000 téléspectateurs, dont aucun ne portait de masque, parce que c'est terminé, c'est maîtrisé.
Alors que la Nouvelle-Zélande a été particulièrement ciblée. La Nouvelle-Zélande a été
souvent entre l'Asie, effectivement, entre les pays d'Asie. qui sont à gouvernement autoritaire et les pays démocrates, parce que même en Italie, où quand même, eux, ils ont été très prudents, ils étaient très échaudés, et donc en juin, juillet, août, ils ont été très, très prudents et ils ont maintenu des mesures sévères. Ça les a pas empêchés de recommencer. C'est bien pour ça que je dis que le déconfinement n'est pas la panacée. Elle permet effectivement de mieux gérer les maladies, de mieux les étaler dans
de
le temps,
de soulager les hôpitaux aussi.
Elle ne supprime pas le virus. La conclusion,
non mais elle ralentit quand même largement la circulation.
Elle soulage les hôpitaux, ce qui est quand même capital.
On connaît aussi les quelques mesures. Les gestes barrières, ça existe. Vous voulez, en fait, on le voit depuis qu'on a mis en place, depuis le couvre-feu, on a vu le nombre de contrôles qui ont été opérés. Plus de 30 000. Ouais. Et environ 5 000 personnes qui ont déjà reçu des contraventions. Et on voit bien, dans ce chiffre qui est quand même assez important, finalement, une personne sur 5 ou une personne sur 6, on voit à quel point on a un respect qui est très relatif des mesures qui ont été mises en place. Et c'est donc un problème de responsabilité personnelle vis-à-vis de ces mesures à prendre, c'est-à-dire les mesures barrières qu'on connaît tous et qui sont normalement relativement applicables. C'est pas la seule chose. Il y a aussi l'isolement. Je pense que l'isolement, on ne s'est pas encore isolé. Et ça, c'est une grande différence avec les autres pays, notamment en Asie. Une personne contaminée doit s'isoler tout de suite. Or, on voit bien ce qui s'est passé dans la chaîne entre le moment où la personne est contaminée, le moment où elle fait son test, le moment où ensuite elle considère qu'elle doit s'isoler. Il se passe du temps,
et
c'est ce temps-là.
Au moins 10 jours, on risque
partout.
D'être malade.
Merci les grandes voix. Je crains malheureusement qu'on ait l'occasion d'en reparler très régulièrement sur Europe 1. On se retrouve dans un tout petit instant.